Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 40e jour après Pâques, la grande fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, qui monte au ciel avec son corps et son âme pour manifester une fois de plus sa divinité, la puissance qu'il a sur toutes les créatures. Il monte au ciel pour nous y préparer une place. C'est pour cela que la suite logique de la fête de l'Ascension, c'est la fête de la Pentecôte, qui arrivera dans 10 jours, où notre Seigneur Jésus-Christ, pour achever notre préparation pour monter au ciel, va nous donner les dons du Saint-Esprit. Donc la vertu particulière de cette fête, la vertu particulière que nous demandons pour cette fête de l'Ascension de notre Seigneur, c'est la vertu d'espérance. Il nous faut donc, même si nous sommes obligés de garder nos deux pieds ici sur la terre, il nous faut garder la tête vers le ciel et les yeux tournés vers le ciel. C'est là-haut que le bon Dieu nous attend. S'il monte là-haut, c'est pour nous y préparer une place. Et comme la fin, si elle est première dans l'intention et dernière dans l'exécution, il faut donc garder en nous constamment cette idée d'aller au ciel. Première condition pour aller au ciel, disait saint Thomas à sa sœur, saint Thomas d'Aquin, c'est d'avoir un grand désir du ciel. Donc posons-nous cette question en ce jour de l'ascension de notre Seigneur, est-ce que j'ai un grand désir du ciel? C'est l'oraison du jour. Accordez-nous, Dieu Tout-Puissant, à nous qui croyons qu'en ce jour votre Fils unique, notre Rédempteur, est monté au ciel, d'habiter également nous-mêmes en esprit par les cieux, dans les cieux par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous faut donc habiter dès maintenant dans les cieux. Il y a deux façons d'habiter dans les cieux. Soit en esprit, soit avec notre âme, soit en puissance, soit en action. On peut habiter au ciel par esprit, en esprit, dès maintenant. Dès maintenant, si je suis en état de grâce, mon âme devient un petit bout de paradis. Donc, si je suis en état de grâce, mon âme est déjà au paradis, même si elle n'y est pas de façon définitive. Donc, il faut garder notre esprit, notre intelligence, notre volonté, notre cœur au ciel. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ, surtout dans les difficultés. Surtout lorsque nous sommes englués littéralement avec les plaisirs du monde, avec les tentations du monde, avec les attractions du monde. Il faut garder notre ciel tourné vers Dieu, les yeux tournés vers Dieu. Et demander les grâces dont nous avons besoin à bon Dieu pour qu'il nous aide à ne pas nous décourager et comprendre que la vie n'est qu'un passage ici-bas et que le bon Dieu nous attend là-haut. Et si je suis déjà en esprit maintenant au ciel, parce que je vis en état de grâce, alors il y a des chances qu'après ma mort, eh bien, je puisse aller au ciel cette fois-ci, non pas simplement en esprit, mais avec mon âme. J'y serai réellement. On dit que le mouvement, c'est le passage de la puissance à l'acte. La puissance d'aller au ciel, on doit la méditer dès ici-bas. Même si l'action par laquelle je serai au ciel, effectivement, n'arrivera qu'après ma mort, si j'ai la grâce de mourir en état de grâce. Il me semble que tout le travail de la contre-église, tout le travail des ennemis de l'église consiste à faire croire aux gens que tout s'arrête au trou du cimetière. Donc le rôle de la révolution, c'est de détruire la vertu d'espérance. Tout s'arrête ici-bas. Donc il faut jouir de la vie au maximum, puisque la vie est courte, il faut en profiter. Au contraire, le contre-révolutionnaire vit d'espérance. Et il répète souvent son acte d'espérance. J'espère avec une ferme confiance, mon Dieu, que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, vous êtes fidèle dans vos promesses. On oublie un peu trop la vertu d'espérance. Elle est pourtant ficelée au corps d'un catholique, à l'âme d'un catholique, plus exactement. N'oublions pas que si le péché mortel, hélas, détruit la charité, le péché mortel ne détruit ni l'espérance ni la foi. Cependant, l'espérance a besoin d'être formée par la vertu de charité. L'espérance d'un pécheur, de quelqu'un qui vit dans l'état de péché mortel, elle est toujours là d'une certaine façon. On peut toujours espérer le ciel, même si on est dans l'état de péché mortel, parce qu'on espère aller au ciel après s'être converti et avoir retrouvé la grâce du bon Dieu après une bonne confession. Mais cette espérance qui est dans le pécheur, qui vit dans le péché mortel, est une espérance moribonde. De même que la foi du pécheur est une foi informe, l'espérance du pécheur est aussi une espérance informe. Et donc il faut prier le bon Dieu d'avoir la charité qui va vivifier notre vertu d'espérance. Il faut les trois, la foi, l'espérance et la charité. Il n'est pas possible d'avoir la charité sans avoir la foi et l'espérance. Par contre, l'inverse est vrai, l'inverse est possible. On peut avoir l'espérance et la foi de façon informe sans qu'elle soit vivifiée par la vertu de charité. C'est pour ça que cette vertu d'espérance est tellement, tellement importante. Si je n'ai pas l'espérance en moi, je ne peux pas avoir la charité, donc je ne peux pas avoir l'état de grâce, donc je ne peux pas sauver mon âme. D'où l'importance, cette petite vertu d'espérance qu'on a tendance à oublier au fond d'un tiroir. Nous allons vers le ciel. Je vais vous donner une comparaison vraiment très moderne, mais qui aideront peut-être surtout les jeunes à comprendre ce que je veux dire. Nous voulons aller au ciel, il y a une route pour aller au ciel. Donc, sur la route, il faut mettre notre véhicule. Et pour que le véhicule puisse rouler sur la route qui mène au ciel, il faut mettre un carburant dans le véhicule, dans le réservoir. Donc, sur la route, l'autoroute qui nous mène au ciel, qui est bien longue, beaucoup de kilomètres à faire, il faut d'abord la route elle-même, il faut le véhicule, la voiture, et il faut un réservoir plein. Eh bien, on peut comparer la route à la foi, la voiture à la charité, et l'essence à l'espérance. Bon, c'est pas une comparaison des pères, c'est une comparaison de la Belle Affite, c'est nettement moins bon, mais je voudrais un petit peu la développer pour vous aider à comprendre. La route, l'autoroute qui nous mène au ciel, est indiquée par un panneau. Il y a un panneau qui indique le ciel. Donc je sais que je suis sur la route qui mène au ciel. Je ne vois pas encore le ciel. Je ne vois pas encore le but du voyage. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de kilomètres à faire. Mais je sais que cette route atteint le ciel. Et qu'il faut donc non seulement que je reste sur cette route, mais que je progresse sur cette route. Donc c'est la foi qui me dit que cette route me mène au ciel. Je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez, étant Dieu, ni vous tromper, ni nous tromper. Ça, c'est la foi, la route. Mais il faut un moyen de se déplacer. Le moyen de se déplacer, c'est une voiture. Il y a différentes sortes de voitures, des voitures qui sont des petites voitures avec une petite deux chevaux, avec un tout petit moteur qui va à pas plus de 60 à l'heure, et puis vous pouvez prendre une grosse voiture qui va aller beaucoup plus vite. Mais il faut cette voiture. Et je m'assois dans cette voiture, je mets la ceinture de sécurité et j'avance, je roule avec cette voiture et plus je roule, plus je me rapproche de la fin de ma vie qui est le ciel. Donc cette voiture, ça représente la vertu de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, par-dessus toutes choses et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Sans voiture, je ne peux rien faire. Mais pour que cette voiture puisse avancer, il faut d'abord s'être arrêté à la station-service et avoir rempli le réservoir de carburant, l'essence, le diesel, comme vous voulez. Eh bien, l'essence, c'est l'espérance. Tant que j'ai de l'essence dans le réservoir, je sais que je peux progresser. Tant que j'ai de l'essence dans le réservoir, je sais que je peux maintenir la voiture sur l'autoroute qui me mène au ciel. Et tant que j'ai ces trois choses ensemble, la foi, la route, la charité, la voiture, et l'espérance, le carburant, eh bien, je progresse vers le ciel, même si je ne le vois pas tout de suite. Parce qu'encore une fois, selon la belle expression de saint Thomas, la fin est première dans l'intention, mais dernière dans l'exécution. Alors vous allez me dire, même monsieur l'abbé, moi j'ai une toute petite voiture, elle ne va pas très vite. Eh bien, il vaut mieux aller doucement que pas avancer du tout. Il vaut mieux avancer pas à pas à 10 à l'heure vers le ciel, que d'être en stationnement sur la route pendant des heures et des heures, bloqué dans un bouchon, on n'avance plus du tout. Et puis il vaut mieux être sur la bonne route qui mène au ciel, même si on roule tout doucement, plutôt que d'être à contresens. Et à ce moment-là, d'utiliser la voiture pour aller dans la direction opposée, celle qui mène à l'enfer. Parce que cette autoroute, elle part d'ici-bas, l'enfer du monde moderne, pour monter au ciel. Donc vérifions bien, chers frères, que je suis sur la bonne route. Chaque fois que vous voyez un panneau, regardez bien, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que ma voiture est en bon état de fonctionnement? Est-ce que tout fonctionne correctement? Est-ce que j'ai l'espérance? Est-ce que j'ai le plein de carburant pour être sûr que j'ai suffisamment de carburant pour continuer d'avancer malgré les tempêtes, malgré les obstacles, malgré les côtes, malgré les difficultés, malgré les pierres sur le chemin peut-être? Voilà mes bien chers frères ce qu'est la vertu d'espérance. La vertu d'espérance c'est ça. L'ascension c'est la vertu d'espérance. Et on voit très bien la tristesse des apôtres qui n'ont pas encore compris toutes ces choses. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, attention. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a rassemblé ses apôtres dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Et sous leur regard, il s'éleva, et une nuée et le déroba à leurs yeux. Et comme ils contemplaient attentivement le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes se présentèrent en vêtements blancs et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui, de milieu de vous, a été enlevé dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Il reviendra donc comme il est parti, à la fin des temps. » D'abord, il reviendra la première fois pour s'occuper de chacun d'entre nous, pour notre jugement en particulier. Mais il reviendra aussi du haut du ciel, avec la croix et les apôtres, pour nous juger tous, pour séparer les boucs des brebis, et pour rétablir la vertu de justice entre l'homme et lui. Donc comprenons, mes bien chers frères, que tant que nous restons sur la bonne route, tant que notre réservoir, encore une fois, est plein, eh bien, la voiture me rapproche du ciel, tous les jours un peu plus. Combien de temps me faudra-t-il pour arriver au but? Je ne sais pas. Il y en a qui vont très vite. Certains, ils vont en quelques secondes. Les bébés, par exemple, qui meurent juste après le baptême, ils vont droit au ciel. On les appelle les voleurs de paradis à cause de cela. Puis il y en a qui mettent beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'ils vont passer une longue période de temps en purgatoire. Il y en a qui vont aller relativement rapidement, parce qu'ils auront fait pénitence ici-bas, alors ils n'auront pas à faire un long purgatoire. Il y en a, hélas, beaucoup qui se découragent et qui s'arrêtent. Ah, évidemment, s'ils s'arrêtent, ils ne progressent plus par définition. Beaucoup sont appelés, peu sont élus, beaucoup se retrouvent dans le contresens, au lieu d'aller vers le ciel, vont de l'autre côté vers l'enfer. Et peu sont élus, il y en a quand même, Dieu merci, qui gardent la bonne direction pour aller vers le ciel. Donc rappelons-nous les conditions pour aller au ciel, elles sont parfaitement explicitées dans l'acte d'espérance. N'oubliez pas que la vertu spéciale du dimanche, du jeudi de l'Ascension, c'est la vertu d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par la mérite de votre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Le bon Dieu nous promet sa grâce par les mérites de sa passion. Et si j'observe au commandement, le bonheur éternel dans l'autre. Si j'observe au commandement, ça veut dire quoi? Si je garde la vertu de charité. Si je garde la vertu qui me fait mettre Dieu à la toute première place dans mon âme. Donc j'ai besoin de la grâce du bon Dieu, que le bon Dieu ne refuse jamais à celui qui la lui demande avec humilité. Et j'ai besoin, comme conséquence de cette grâce, si vous voulez, de la vertu de charité, de conserver en moi la vertu de charité. C'est pour ça qu'on appelle cette vertu de charité la grâce habituelle, une grâce qui est habituelle dans notre âme, qui nous maintient habituellement sur la route qui mène au ciel. Alors je pourrais y aller et obtenir le bonheur éternel. Mais pour bien comprendre l'esprit de l'Église, l'esprit qui anime l'Église en cette fête de l'Ascension, il faut faire attention, il y a un texte très important que justement l'Église n'a pas choisi pour rien. Comme évangile de la fête de l'Ascension, il y a ce texte de saint Marc. Et notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer ses apôtres dans le monde entier. Voilà ce qu'il leur dit. En ce temps-là, les onze étant à table, Jésus leur apparut et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, allez par le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Comme cette phrase est importante. Les modernistes donneraient des milliards pour que cette phrase n'ait jamais été écrite. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit deux choses. Il explique que pour être sauvé, il y a une condition. Il faut croire. Il faut être baptisé. Il faut la foi et les œuvres. La charité. Mais cet évangile dit aussi que celui qui ne croit pas sera condamné. Donc cette petite phrase très courte, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, exalte à la fois la justice et la miséricorde du bon Dieu. La première partie exalte la miséricorde, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais la deuxième partie exalte sa justice. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va pas au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les modernistes ne peuvent pas supporter cette phrase parce que ça va contre leur petit principe que tout le monde est sauvé, il paraît, dans l'Église moderne. Que tout le monde va au ciel. Que tous les anges, que toutes les créatures humaines, que tous les hommes sont des enfants du bon Dieu, d'après M. Bergoglio. Qui a manifestement complètement oublié son catéchisme. Alors que le catéchisme, lui, au contraire, étant catholique, nous rappelle qu'il faut être baptisé. Et c'est ce que dit notre Seigneur. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Donc celui qui n'est pas baptisé ne peut pas être sauvé. Celui qui n'est pas baptisé n'a pas en lui la vertu de charité et n'est pas donc enfant de Dieu. Donc le caractère du baptême est nécessaire au salut. Hors de l'Église catholique, hors du baptême catholique, personne ne peut être sauvé parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul baptême. Et pour bien montrer ce lien entre le baptême et la foi, notre Seigneur dit bien, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le baptême seul ne suffit pas, il faut la foi pour croire, il faut l'espérance pour prier et il faut la charité. Pour obéir à la loi de Dieu, à ce moment-là, nous pourrons être sauvés. Mais si je ne crois pas, je serai condamné. Et Dieu, contre sa nature même, sera obligé d'utiliser avec un non-croyant, avec quelqu'un qui refuse de croire, sera obligé d'utiliser la force de sa justice. Et celui-là sera condamné. Donc, je suis désolé, M. Bergoglio, mais notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il y a des hommes qui seront condamnés et des hommes qui seront sauvés. Et il nous explique en plus, donne la peine de nous dire qu'il y a malheureusement plus de gens qui sont condamnés que de gens qui sont sauvés. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Large est la voie qui mène à la perdition et nombreux sont ceux qui la prennent. Et peu nombreux sont ceux qui prennent la voie, la porte étroite et resserrée qui mène au ciel. Ben oui, c'est comme ça. Ben pourquoi cette phrase est tellement importante? J'ai remarqué... Pour l'apostolat de prêtre, quand on parle avec des prêtres modernistes, de temps en temps, ils nous abordent, c'est rare, mais ça arrive, ils nous parlent tout de suite de la miséricorde. Vous voyez l'enfer partout, tout le monde est sauvé. Dis, ah bon, tout le monde est sauvé? Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné? À ce moment-là, ils me regardent avec des yeux ronds, ils font demi-tour, ils s'en vont. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien opposer à une phrase divine comme celle-là. Donc demandons, mon Dieu, mes bien chers frères, demandons, mon Dieu, qu'il puisse utiliser avec nous sa miséricorde avant d'utiliser sa justice. Si je meurs en état de grâce, avec la vertu de charité en moi, Dieu, avec joie, utilisera sa miséricorde pour moi. Hélas, si je meurs en état de péché mortel, eh bien, le bon Dieu sera contre sa nature même, je dirais, obligé d'utiliser pour moi sa justice, et il sera obligé de me dire, éloignez-vous de moi, maudit. Mais la vertu d'espérance nous fait justement demander cette grâce, que le jour où je pourrai être présenté devant le bon Dieu, le jour de ma mort, que je puisse entendre cette phrase de l'œuvre sacrée de notre Seigneur, venez les bénis de mon Père, prendre possession du royaume qui vous a été préparé. Alors demandons à celle qui est à la droite de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa mère, la très sainte Vierge Marie, demandons-lui de nous aider à comprendre toutes ces choses-là, encore une fois, à comprendre ce catéchisme, à aimer ce catéchisme, à aimer l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, à mettre nos petites idées personnelles dans la poche avec le mouchoir par-dessus pour suivre ce que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours enseigné. S'il y a une chose, mon Église catholique a toujours eu horreur, c'est les nouveautés en matière de foi. En demandant à notre Sainte Vierge Marie de garder en nous la foi, l'espérance et la charité pour qu'un jour nous puissions la retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.